raconte. Christophe Ondelatte.
Dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, la victime, Christian Labouisse, que l'on retrouve mort dans la région de Toulouse en décembre 2004, à deux jours de Noël, est un ancien militaire, un commando devenu spécialiste de sécurité rapprochée. Alors on se dit que sa mort a à voir avec son métier. On pense s'embarquer dans un polar peuplé de gros bras et de tueurs à gages. Et on tombe finalement sur un pauvre type. Pour le débrief, je ferai appel à un ténor du barreau de Toulouse, maître Georges Catala. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le jeudi 23 décembre 2004, deux jours avant Noël, en fin de journée, un peu avant 19h, il fait déjà nuit, Geneviève Labouisse rentre chez elle, ou plutôt chez ses parents, à Nailloux, en Haute-Garonne, à 35 kilomètres de Toulouse. Elle passe le portail, elle s'engage dans l'allée qui mène à la villa, c'est une très belle propriété. Son père a deux très grosses entreprises de gardiennage et de sécurité, ils ont une très belle maison. Et d'un coup, elle freine. Il y a une voiture, tout feu allumé, au milieu du chemin. Et devant la voiture, un corps. Elle descend, elle s'approche. Le corps est méconnaissable, la tête est explosée, elle est en bouillie. Mais le gabarit, les vêtements, elle comprend tout de suite que c'est lui, c'est son père. Il a été assassiné. Geneviève appelle les gendarmes de Villefranche de Lauragais. Ils arrivent sur place dans la foulée.
Il a pris une décharge de gros calibre en pleine figure, le gosse. À mon avis, c'est un fusil de chasse. Regarde, il a aussi pris une décharge dans le pied, gros calibre, hein, aussi à mon avis. T'as vu la chaussure ?
La chaussure, une chaussure de sécurité avec une coque en métal, est à plusieurs mètres du corps. Et ensuite, les gendarmes s'approchent de la voiture. Le moteur tourne encore, les phares sont allumés, l'autoradio est en marche, la portière conducteur est grande ouverte et la vitre fracassée.
La bagnole a pris un, deux, trois coups de feu.
Et autour de la voiture, les gendarmes trouvent des douilles.
Appelle donc les gars à la balistique.
Les experts en balistique arrivent à leur tour. Et assez vite, ils établissent que deux types d'armes ont été utilisées.
Donc, si on fait le bilan, on a une, deux, trois, quatre douilles de fusil de chasse. Et puis, on a du 11-43, hein, le calibre du milieu, dont deux balles qui sont là et là, et qui n'ont pas été percutées. Ça peut vouloir dire que le pistolet était défectueux.
Deux armes, deux calibres, donc possiblement deux tireurs. Derrière la voiture, les gendarmes trouvent aussi un gant noir, qui est placé sous scellé. Le lendemain du meurtre, les gendarmes perquisitionnent la maison de la victime. Ils y trouvent trois armes, dont une est scotchée sous un fauteuil dans le salon. Christian avait-il peur ? Est-ce qu'il se sentait en danger ? Et maintenant, il faut que je vous explique qui est la victime. Christian Labouisse. Il avait 61 ans, c'est un ancien militaire, un ancien commando. On dit mais sans preuve qu'à la retraite, il a joué les mercenaires en Afrique. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'au moment où il est tué, il est à la tête de deux grosses entreprises de sécurité qui emploient au total 250 personnes. Il fait du gardiennage et à côté de ça, il assure la sécurité de gros événements, genre les concerts de Johnny Hallyday, vous voyez ? D'ailleurs, à ses obsèques, quelques jours plus tard, il y a un monde fou. Il a fallu dresser une tente et le chanteur Michel Jonas est là. Et tous se posent la même question. Qui a pu tuer Christian Labouisse ? Assez naturellement, les gendarmes commencent par s'intéresser à son univers professionnel, la sécurité, à ses entreprises, ses clients, ses employés. On leur dit que c'était un patron très dur, mais apprécié. Sa comptabilité est en règle. A priori, rien de louche, pas de magouille. Ses tarifs sont un peu plus chers que la moyenne, mais il paraît qu'il bossait très bien. D'ailleurs, ses contrats ne se cantonnaient pas à la région de Toulouse, hein. Il assurait souvent la sécurité dans la région de Bordeaux, à Marseille, à Lyon et même à Paris. Un succès qui lui a peut-être valu des ennemis. Les gendarmes découvrent que récemment, dans une interview à la Dépêche du Midi, Christian Labouisse s'est lancé dans un combat pour moraliser la profession. Il voulait imposer une charte et créer un syndicat. Et mieux que ça, quelques semaines avant de mourir, il a joué les balances. Il a fait passer au fisc et à l'URSSAF une liste de sociétés de sécurité qu'il estimait hors la loi. Est-ce que ça n'est pas là que se trouve la clé de son meurtre? Les gendarmes, du coup, se font remonter les relevés téléphoniques de tous les dirigeants d'entreprises du secteur de la sécurité dont il avait épinglé le nom sur sa liste noire. C'est un travail titanesque qui ne débouche sur rien. La piste d'un conflit d'ordre professionnel n'est pas abandonnée. Hein. Mais pour l'instant, rien n'a gratté de ce côté-là. Du coup, les gendarmes se rabattent sur sa vie privée. Christian Labouisse était marié avec Monique. Et ils avaient une fille, Geneviève, vous la connaissez, c'est elle qui a retrouvé le corps. Mais il s'avère qu'il avait une double vie, une autre femme à Paris et une autre fille du même âge. Les gendarmes vont voir la miss.
Vous savez, oui, c'est vrai, j'ai longtemps été la maîtresse de Christian, mais moi, en vérité, c'était terminé depuis longtemps. Mais on était restés amis. On continuait à se voir. Il m'aidait un peu financièrement, et puis, mais surtout, il voyait sa fille. Ils étaient assez proches. Et c'est d'ailleurs, c'est lui qui finançait ses études. Mais votre relation était clandestine. Votre fille et les jeunes savaient? Ah oui. Il n'y avait rien de secret. Il l'avait reconnu.
Donc, rien n'a gratté de ce côté-là non plus. Là-dessus, les gendarmes découvrent l'existence d'un troisième enfant. Une autre fille, Patricia. Un enfant qu'il a eu avec sa première femme, morte dans un accident de voiture. Patricia avait 9 ans, quand sa mère est décédée, lui ne pouvait pas s'en occuper puisqu'il était militaire. Il l'a donc confié à une tati, et après il l'a un peu, disons, oublié. Il ne l'a même pas invité à son mariage avec Monique. Et après, elle devait vouloir exister aux yeux de son père, elle a intégré l'armée. Mais elle n'y est pas restée très longtemps. Dans le but d'explorer toutes les pistes, les gendarmes demandent à la rencontrer.
C'est-à-dire qu'il vous faudra aller la voir à l'hôpital. Elle est hospitalisée en ce moment. Une dépression.
Ils vont donc voir Patricia à l'hôpital. Et ils tombent sur une jeune femme, très obèse et pleine de ressentiment.
Vous savez, moi, je suis un peu le mouton noir, hein, chez les Labouisse. Hein.
Et là, les gendarmes découvrent que Patricia a un compagnon qui a fait de la prison pour meurtre. Du coup, lui aussi, les gendarmes demandent à le voir.
Mais moi, je le connaissais pas, mon beau-père, hein. Je l'ai jamais vu. Ça fait pas longtemps, hein, que je suis avec Patricia.
Quoi qu'il en soit, il a un alibi le jour du meurtre. Mais les gendarmes, au pif, au flair, et aussi parce qu'ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent, continuent d'explorer cette piste de la fille mal aimée. Et ils découvrent qu'avant de rencontrer cet ancien détenu, Patricia a longtemps vécu avec un autre homme, un gars surnommé Pompon, avec lequel elle a tenu un bistrot à Toulouse. Et un jour, le Pompon l'a dérouillé, et Patricia a fini à l'hôpital. Et ça c'est très intéressant. Son père, Christian Labouisse, l'a appris. Et il a envoyé quelques-uns de ses gros bras faire la leçon à Pompon. Ils lui ont collé une raclée. Genre, t'y touches plus et tu te casses. Tu disparais de sa vie. Et d'un coup, le Pompon a perdu sa femme et la co-gérance du bistrot. Vous voyez où je veux en venir?
Ça fait un sacré motif pour se venger, ça. Ça fait un mobile. Pompon est donc interrogé.
Ah, mais le 23 décembre, hein. Moi, j'étais pas du tout dans le coin de Toulouse, hein. J'étais à Grenoble. Vous pouvez vérifier.
Et il était bien à Grenoble. Fausse piste. Mais faut-il pour autant lâcher la piste de la mal-aimée? Car Patricia est une fille assez instable, qui a multiplié les relations un peu foireuses. Et en fouillant son passé, les gendarmes tombent sur un gars prénommé Claude, avec lequel elle a passé 15 ans de sa vie. Ce Claude est employé dans une déchetterie. Il habite à Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon. Il n'a pas de téléphone portable, il a juste une ligne fixe sur laquelle il ne reçoit que 2 appels par mois. 2 semaines après le meurtre de Christian Labouisse, les gendarmes débarquent chez lui. Le type leur ouvre la porte en charentaise, le béret vissé sur la tête.
« Je vous offre un café, messieurs. »
L'intérieur de la maison est assez surréaliste. On se croirait dans une droguerie. Le type a accumulé sur des étagères des dizaines de bouteilles de shampoing, des savons, des tubes de dentifrice et des éponges. Tout ça aligné au cordeau, comme dans un magasin avant l'ouverture. Une dinguerie.
Oh, ça c'est rien, hein. La nuit, je vais faire les poubelles au supermarché. C'est fou, ce qu'ils jettent comme produit. Hein. Alors moi, je les récupère.
Un grand original. Et assez vite, les gendarmes en viennent à l'essentiel.
Dites-moi, monsieur, Patricia Labouisse, quelles sont vos relations avec elle? Ben, j'ai vécu avec elle pendant 15 ans. Vous connaissez son père, hein? Connaître, c'est beaucoup dire. Je l'ai vu une fois, je crois. Depuis quand est-ce que c'est terminé entre vous? Mais Patricia, elle est partie avec Pompon, son nouveau copain, il y a un an et demi. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'est pas partie des mêmes villes, hein. Ils m'ont volé l'argent. Ils m'ont tout volé.
Ah, et combien d'argent? Le type est assez confus. Un coup, il parle de dizaines de milliers de francs, et une minute après, de dizaines de milliers d'euros.
Cet argent, je l'avais dans un sac plastique, planqué sous l'évier. C'était toutes mes économies. Et Patricia, elle m'a tout pris. Mais ça faisait combien? Combien d'argent, monsieur? Eh bien, 680 000 euros, c'est-à-dire 400 000 francs anciens, si vous voulez.
Le type n'a pas fait maths sup, ça paraît clair.
Mais d'où vous le sortiez, monsieur, cet argent liquide?
Et là, le type se met à patauger. Les gendarmes se disent qu'il est surtout barjot, et que tout ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec le meurtre de Christian Labouisse. Fin de la piste familiale. Enfin quand même, avant de partir,
dites, monsieur, on pourrait vous faire un prélèvement ADN? C'est 3 fois rien, hein. Je vais juste vous mettre un coton-tige dans la bouche. Voilà.
Depuis le début de cette enquête, les gendarmes ont prélevé l'ADN de tous ceux qu'ils ont interrogés. Pour une raison très simple. Le gant noir retrouvé près de la voiture de Christian Labouisse. Dessus, on a isolé un ADN masculin. Et le 14 février, un mois et demi après le meurtre, coup de fil du laboratoire.
Bon, ça y est, hein. On a un ADN qui match.
Ah bon? Et c'est qui?
Mais le dernier gars que vous avez interrogé, là. Claude Clément. Son ADN match avec l'ADN du gant.
Ça alors? Le vieux garçon, collectionneur de shampoing, l'ex de Patricia. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue.
Je peux pas être le tueur, j'étais pas à Toulouse le 23. Ah bon, et vous étiez où? Mais j'étais à Toulon. Je suis allé voir les illuminations de Noël dans le centre-ville. Et quelqu'un me confirmer? Non, j'étais seul. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, ça vous pourrez vérifier, y avait un énorme embouteillage à cause d'un accident.
Les gendarmes lui parlent de Patricia,
et de Christian Labouisse, et lui en revient toujours à son pécule, à son sac plastique sous l'évier. Patricia Labouisse, c'était une voleuse. C'était rien qu'une voleuse. Mais cet argent, monsieur, d'où est-ce qu'il venait? Eh bien, c'était l'argent que mes parents avaient laissé à moi et à mon frère. Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte pour ce vol? Ah, mais j'ai porté plainte, hein, à la gendarmerie de Saint-Cyr-sur-Mer. Mais ils m'ont pas cru. Et j'ai aussi appelé le père.
Son père? Christian Labouisse?
Il m'a traité comme une merde. Il a rien voulu entendre.
Ça nous fait un mobile, ça.
Et donc, à un moment donné, les gendarmes abattent leur carte maîtresse.
Monsieur Clément, est-ce que vous reconnaissez ce gang?
Ah, oh que je suis content, c'est mon gars. Je l'avais perdu, et vous l'avez trouvé où? Et il avait disparu, on me l'a volé.
Quel guignol!
Ah, on vous l'a volé? Et qui vous l'a volé?
C'est Patricia et Pompon, c'est eux qui ont tué Christian Labouisse. Et ils veulent me faire porter le chapeau.
Pourquoi pas? Mais en vérité, c'est impossible. Patricia Labouisse était à l'hôpital au moment du crime, et Pompon, c'est avéré, ça, était à Grenoble.
On va être très clair, monsieur Clément. Ce gang, qui est le vôtre, et qui porte votre ADN, il a été retrouvé sur la scène du crime. Alors, il serait plus simple pour vous de reconnaître que vous étiez sur place, hein?
Ça serait plus simple, mais il s'acharne à nier. Mais comme l'ADN est la reine des preuves, le juge le met en examen et l'expédie en prison.
Vous me faites marcher, là? Vous n'allez pas m'enfermer? Eh bien si, monsieur Clément. Si, si.
Deux jours plus tard, Claude Clément est de retour dans le bureau du juge. Et il continue de nier en bloc, toujours omnibulé par le vol de son trésor planqué sous l'évier.
J'ai déposé plainte à la gendarmerie de Saint-Cyr. Vous n'avez qu'à vérifier.
On vérifie. Et là-dessus, il ne ment pas. Il a bien déposé plainte à la gendarmerie le 28 septembre 2003. Et il a dressé la liste de tout ce que Patricia Labouisse lui aurait volé. Il est question d'une chaîne en or, d'une bague en or sertie de diamants, de centaines de cassettes vidéo, de 250 CD et d'une grosse somme d'argent, dans les 100 000 euros. Mais étrangement, il n'y a pas eu de suite à cette plainte. Elle est parvenue au procureur de Toulon et ensuite elle s'est perdue. Il serait peut-être temps de demander des comptes là-dessus à Patricia. 4 mois après le meurtre, Patricia Labouisse est placée à son tour en garde à vue. Et elle avoue immédiatement le vol.
Oui, c'est vrai, je lui ai volé tout ça.
Vous étiez seul?
Non. Pompon, il était là. Mais je suis la seule responsable.
Vous avez fait quoi de cet argent? Combien il y avait déjà?
Il y avait 106 000 euros exactement. Un temps avec, on a vécu à l'hôtel, et puis après, on a pris la gérance d'un bar à Toulouse.
Vous en avez parlé à votre père de ce vol?
Oui. Il m'a dit qu'il nous coûte cher.
Madame, je dois vous informer que vous allez être poursuivie pour ce vol.
Elle sera même jugée. Normal.
Revenons-en au meurtre maintenant. Comment Claude Clément a-t-il pu se procurer des armes?
La piste n'est pas très dure à remonter. Je vous l'ai dit, le type ne reçoit en moyenne que 2 coups de fil par mois. Et en fouillant son relevé, les gendarmes tombent sur un certain Richard, un amateur d'armes à feu abonné à un stand de tir.
Avant d'aller l'interpeller, les gendarmes se font remonter ses factures détaillées de téléphone, doublées de la géolocalisation. Et le Richard en question n'était pas à Naïou le jour du meurtre. Rien donc ne permet de le placer en garde à vue. Il est donc entendu en tant que témoin.
Vous le connaissez depuis longtemps, Claude Clément?
C'est-à-dire, on vient tous les deux de vieilles familles de Saint-Cyr. Donc on se connaît depuis tout petit. Hein.
Là-dessus, son portable se met à sonner. Et les gendarmes le laissent répondre. À l'autre bout du fil, manifestement, sa compagne.
Oui, chérie, oui. Il pense que j'ai gardé des trucs quand Claude est venu me voir, à la maison.
Des trucs? Dans la tête des gendarmes, une lumière s'allume. Des trucs? Ça serait pas les deux armes?
Dites, monsieur, quand vous dites des trucs, là, à votre compagne, à l'instant, au téléphone, vous pensez à quoi?
Mais une nuit, Clément, il s'est pointé chez moi. Il m'a donné un sac qui contenait un pistolet, un fusil. Il m'a dit, tu les vends, j'en ai plus besoin.
Ça change tout. L'oiseau est immédiatement placé en garde à vue. Et il raconte que 6 mois plus tôt, Claude Clément est venu lui demander une arme.
Il voulait un calibre 12 pour tuer des pigeons, qu'il disait. Alors je l'ai mis en contact avec un des abonnés du club de tir qui était vendeur d'un fusil. Et un peu plus tard avec un autre qui lui a vendu un pistolet automatique, un 11-43. Et tout ça sans rien déclarer. Tout ça sans rien déclarer. Mais moi j'étais juste l'intermédiaire. Hein.
Les gendarmes vont tout de suite perquisitionner chez lui. Il tombe sur une armurerie, mais pas la moindre trace des deux armes recherchées.
Mais le fusil, je l'ai donné. Je l'ai donné à un neveu. Et le 11-43, je l'ai jamais eu, moi.
Peut-être. Mais on trouve quand même des balles de 11-43 chez lui. L'oiseau est donc mis en examen pour complicité d'assassinat. Là-dessus, le juge reçoit une lettre de la dernière compagne de Claude Clément. Elle demande à être entendue.
Je voulais vous dire que moi, les armes, je les ai vues chez Claude. Et puis je voulais vous dire aussi qu'un jour, il m'a amené à Naïou, chez Monsieur Labouisse, pour faire en quelque sorte un repérage, quoi.
Ça, c'est du concret. Le juge fait donc revenir Claude Clément dans son bureau.
Vous ne sentez pas que votre position est devenue intenable, monsieur Clément?
Son avocat demande une interruption. Les deux hommes sortent s'entretenir. Et quand Clément revient, il déballe tout.
Je vais tout vous dire. J'ai pété les plombs. Le 23 décembre, je dormis plus de 3 jours avec tout l'argent qu'elle m'a pris. J'en pouvais plus. Et j'étais sûr que Christian Labouisse, il était de mèche avec sa fille Patricia. Et donc je suis parti le voir parce que je voulais m'expliquer avec lui de vive voix.
Il dit qu'il a garé sa voiture devant une entrée secondaire de la propriété. Et qu'il est allé attendre Christian Labouisse devant l'entrée principale. Il avait caché son fusil derrière un arbre et glissé son 11-43 à la ceinture.
Et un quart d'heure après, il est arrivé. Il est descendu de la voiture pour ouvrir le portail. Et moi, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, je veux récupérer mon argent. Et il m'a répondu, si tu continues de me harceler, je t'allume. Il est remonté en sa voiture. Et là, j'ai attrapé mon fusil. Et j'ai tiré. Il est sorti de la voiture. Je l'ai dérouillé de 2 nouveaux coups le fusil. Et après, j'ai voulu utiliser le 11-43, mais il s'était enrayé.
Et après, il reconnaît avoir donné son fusil à son ami Richard. Il dit qu'il a jeté le 11-43 à la déchetterie.
Vous étiez tout seul, monsieur Clément? Ou votre ami Richard était avec vous?
Il est pour rien, Richard. J'étais tout seul.
Le camarade Richard est donc mis hors de cause.
Il devra tout de même répondre devant le tribunal correctionnel de dissimulation de preuves, mais il sera relaxé. Et donc Claude Clément va comparaître tout seul devant les assises pour l'assassinat de Christian Labouisse. Même si les gendarmes ont un doute, ils pensent toujours qu'ils étaient deux. Mais avant de juger Claude Clément, il faut juger Patricia Labouisse pour le vol qui a tout déclenché. L'enquête a permis d'établir qu'il y en avait pour 174 000 euros. Et Patricia Labouisse est condamnée à 1 an de prison avec sursis. Et elle doit rembourser Claude Clément. Et l'air de rien, cette condamnation va peser sur le procès d'assises. Procès qui s'ouvre le 3 juillet 2008 à Toulouse. Car Patricia est appelée à témoigner, évidemment. À la barre, elle fait un peu pitié.
J'ai gâché la vie de tout le monde par ce vol. Je le regrette.
Et immédiatement, la défense de Claude Clément s'engouffre dans la brèche. D'autant que l'autre n'a que ce mot à la bouche. Elle m'a volé, on m'a volé. Il est accusé d'assassinat et tente de se faire passer pour la victime.
Je voulais mon argent, point barre. Alors oui, j'ai honte. Oui, je regrette mon geste. Mais quand il m'a rembarré, je suis devenu fou. J'ai couru vers mon fusil et j'ai tiré. J'avais peur qu'il sorte une arme.
Et là, ses avocats font remarquer que dans l'agenda de Christian Labouisse, saisi par la justice, on a retrouvé le numéro de téléphone portable de l'enquêteur de Toulon qui était en charge de la plainte pour vol. Il paraît clair que M. Labouisse a fait pression sur les gendarmes pour étouffer l'enquête pour vol. Ce vol dont mon client a été victime. C'est le puissant contre le faible. Mon client a été méprisé par la justice. Bien joué, maître. L'avocat général requiert 22 ans de réclusion criminelle. Et au final, Claude Clément, qui est reconnu coupable d'assassinat, est condamné à 16 ans. Il s'en sort bien, il encourait perpète. Mais l'avocat général fait appel et il y a un deuxième procès en juin 2010 devant les assises de Montauban. Claude Clément, à ce moment-là, a déjà passé 5 années en prison. Il a 63 ans. Il apparaît très diminué. Et surtout, Patricia Labouisse est absente. Elle ne peut pas témoigner. Son psychiatre a fait parvenir un certificat. Elle n'est pas apte à comparaître. Et ça rebat les cartes. Parce que Claude Clément est finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Presque le double. Eh oui. Ça tient parfois à ça, un procès d'assises. À la présence ou à l'absence d'un témoin. Pour débriefer cette histoire, j'ai demandé à maître Georges Catala, ténor du barreau de Toulouse, d'être là. Vous étiez maître dans ce dossier, l'avocat de la famille Christian Labouisse, l'avocat de sa femme et de sa fille. C'est assez rare quand même, un tel écart entre le verdict de deux procès. 16 ans la première fois, 30 ans la seconde. Ça tient vraiment à la présence de Patricia au premier procès et à son absence au second?
Oui, je ne crois pas. Je pense que la matérialité des faits était d'une telle ampleur que le jury de Montauban a considéré que les choses étaient affreuses, qu'il y avait eu un guet-apens, qu'il y avait eu un assassinat, qu'il y avait eu la préméditation. Et par voie de conséquence, tout le reste est parti. Je veux dire, tous les beaux raisonnements qui avaient été faits en première instance ont disparu. On s'est heurté à l'horreur d'un assassinat et il a appris ce qui, à mon avis, était tout à fait justifié.
Vos clients, donc la femme et la fille de Christian Labouisse, le premier verdict, 16 ans, comment est-ce qu'ils réagissent?
C'est-à-dire que dans un premier temps, il n'y a pas eu de sidération. C'était une sorte de fatalité qu'ils venaient de subir, la mort de celui qu'ils aimaient. Et par voie de conséquence, bon, ils n'étaient pas là pour solliciter des peines terribles. Simplement, ils voulaient que la justice passe. Mais... si vous voulez, ce qu'on est en droit de considérer dans cette affaire, c'est que, comme vous l'avez dit tout à fait justement, au départ, il y avait une immense fantasmagorie autour de l'assassinat de Labouisse. On imaginait, compte tenu de son passé, compte tenu de son aura, compte tenu de son charisme, que c'était tout à fait compliqué. Et il se trouvait que le jour des faits, le jour de l'assassinat, j'avais déjeuné avec lui, avec Christian. Et nous avions discuté de mille choses, toutes sages et raisonnables. Et je savais, c'était mon point de vue, que ce qui était arrivé à Christian par la suite ne pouvait pas être très compliqué. Que c'était très près de la famille, en tous les cas très près d'un fait divers banal. Et que ça ne servait à rien de chercher midi à 14h en Afrique ou dans le processus des sociétés de protection, etc., etc. Et finalement, mon intuition était judicieuse, puisque la montagne a accouché d'une souris, et on a trouvé un assassin minable.
Christian, puisque vous le connaissiez bien, cette histoire de fille mal aimée, je dis pas désaimée, et personne ne peut donner de leçon de morale, ça n'est jamais facile quand on a une activité comme la sienne, qu'on se retrouve veuf, d'élever une gamine. Il en parlait, il était affecté par ça, c'est quelque chose qui le perturbait.
Ça ne faisait pas partie de ses préoccupations immédiates. Il avait une... la fille de Monique était une gamine admirable, très brillante. Comme vous l'avez dit également, il y avait une autre fille qui était plus ou moins dans l'ombre. Mais celle-ci, celle qui a agité les esprits à un point tel qu'elle va faire d'un imbécile un assassin, c'était pas dans la bouisse une préoccupation constante. Je mentirais si je disais le contraire. Il est vrai que ses troubles de caractère, son comportement un peu psy, va faire que, sans doute, le père va se détacher de sa fille, qui elle-même va avoir une vie non pas aventureuse, mais pas très
douloureuse, finalement.
À la loi et au règlement. Et par voie de conséquence, les choses se sont passées comme vous le savez.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Claude Clément, dont vous avez dit tout à l'heure que c'était un imbécile, ce que je pensais déjà avoir compris. Sur le plan psychiatrique, ce garçon a l'air fada. Cette collection de shampoings sur ses étagères laisse entrevoir un type déséquilibré.
Il y avait forcément, dans le comportement de cet homme, une coloration psychiatrique. Et psychologique qui le mettait dans une situation prompte à passer à l'acte. Il faut quand même imaginer que toute son activité, en dehors de quelques petits métiers, consistait à aller dans les poubelles pour ramasser de la nourriture, pour ramasser des objets, et pour collectionner tout ça afin qu'il puisse obtenir de l'argent et que cet argent, il puisse le mettre sous l'évier. Alors, il y a déjà une démarche assez singulière, et il faut imaginer la secousse extraordinaire qui résultera du fait que lorsqu'il arrive un beau jour devant son buffet, devant la cachette, il trouve que l'argent a fichu le camp. Alors, on peut comprendre que cet homme fragile, déjà névrotique et déséquilibré, va péter les ponts, comme il dit. Et c'est là où les choses se compliquent, c'est que il va aborder dans son esprit un processus un peu parano, en disant, bon, la fille, c'est pas grand-chose, mais c'est le père qui la protège, ce qui est peut-être absolument faux et tout à fait hors de propos.
Sur le plan psychiatrique, les experts psychiatres, néanmoins, ne disent pas qu'il est victime d'une affection psychiatrique qui le mettrait à l'abri d'un jugement. Hein.
Ah non, il n'est pas emporté par une grande maladie mentale, parce que il était organisé dans la tuerie, il s'est fait communiquer des armes, il a fait des plans, qu'il savait très bien où il allait, contrairement à ce qu'il a soutenu pendant un certain temps. Il n'a donné aucune chance à Christian Labouisse. Lorsque Christian arrive à son portail, l'autre tire à plusieurs reprises. Donc il n'y a pas eu d'ébauche d'une discussion, etc. Ce qui, à mon avis, ne peut s'expliquer qu'au travers d'un processus un peu parano. Il avait fait son idée fixe, il avait voulu résoudre le problème de Christian, et pour le résoudre, il fallait le tuer. Quoi, voilà.
Tout de même, quelque chose, maître. Voilà un garçon qui est quand même victime d'un déni de justice, puisqu'il porte plainte. On voit que quand on rend mal la justice, ça peut dégénérer. Parce que si cette plainte n'avait pas été reléguée par le procureur de la République, si elle avait été instruite et qu'elle avait amené à la condamnation de Patricia Labouisse, alors sans doute n'y aurait-il pas eu de meurtre derrière.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que ça aurait considérablement désamorcé ce comportement paranoïaque, dès lors que les choses seraient rentrées dans un stade de compréhension pour lui. Il est fort regrettable que sa plainte n'ait pas été suivie d'effet. Je suis tout à fait d'accord. Il est tout à fait possible qu'à l'heure actuelle, notre ami Christian serait parmi nous encore.
C'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que la petite justice est utile à la grande, quoi. Voilà. Cette plainte pour vol a été négligée et ça a eu des conséquences terribles. Est-ce que vous pensez aussi, comme manifestement les gendarmes à la fin de leur enquête et peut-être aussi le juge d'instruction, mais personne n'est arrivé à le prouver, qu'ils étaient deux?
Et je crois que matériellement, c'est une thèse qui pouvait être soutenue parce que il y a eu l'assassinat s'est fait par deux étapes, si je puis dire, et avec des armes différentes, mais psychologiquement, je ne crois pas du tout un instant qu'il ait partagé son idée fixe auprès de quelqu'un. Je ne crois pas. D'abord, s'il était allé avec quelqu'un, il aurait dû le payer, et ce n'était pas le genre de la maison, puisque son souci essentiel, c'était de
se faire passer
de l'argent. Voilà, non. Non, je pense que c'était une hypothèse qui, du reste, a été éliminée par les deux cours d'assises, et ça ne tenait pas tout à fait la route.
Merci maître Catala d'avoir accepté une fois de plus de revenir sur cette affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.